journal, Marie-Françoise Ewolo.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Assemblée nationale, le projet de loi portant prorogation des mandats des députés et conseillers municipaux est examiné depuis cette mi-journée. Les législatives et les municipales se tiendraient en 2026 et non plus au début de l'année 2025. Dans le dossier du 13h, les réactions des députés et avec ce report annoncé, le désengorgement du calendrier électoral et une meilleure organisation matérielle plus sereine des différents scrutins, le conseil de cabinet extraordinaire ce matin l'immobilier était centré sur le climat sociopolitique dans la perspective des prochaines échéances électorales. Notre série vacances scolaires se poursuit. Gros plan sur une matinée avec les jeunes à la maison. Vacances en famille, parole aux parents qui, depuis plusieurs semaines, ont constaté que la consommation à la maison a été revue à la hausse. En France, législative 2024, Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment. C'est pour assurer la stabilité du pays, dit-il, et attendrait la structuration de la nouvelle Assemblée avant de nommer un successeur. Rappelons qu'hier, le nouveau Front populaire, qui regroupe plusieurs forces de gauche, est arrivé en tête avec 180 sièges suivis du camp présidentiel, avec l'ensemble de ses alliés positionnés en deuxième place avec 163 sièges. Le Rassemblement national et ses alliés arrivés en tête au premier tour n'ont atteint que la troisième place avec 143 sièges et enfin les Républicains et leurs alliés obtiennent 66 sièges. Conseil de cabinet extraordinaire sur fond de débat sur le climat sociopolitique dans la perspective des prochaines échéances électorales à l'immeuble Étoile ce jour. Sur très haute instruction du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, a réuni son équipe dans la perspective d'une bonne organisation des 10 scrutins. Retrouvons notre correspondante permanente à l'immeuble Étoile. Bonjour Laurentine, quels sont les contours du conseil de cabinet extraordinaire de ce lundi matin?
50 minutes, c'est le temps qu'aura duré cette concertation peu ordinaire. Ce qu'il faut retenir, Marie-Françoise, c'est une première ici, à l'immeuble Étoile, voir le gouvernement au grand complet tenir une session extraordinaire du conseil de cabinet. Premier élément de motivation, si l'on s'en tient aux propos liminaires du premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, le calendrier électoral dans un contexte socio-économique peu favorable, avec une tension de trésorerie qui impose en réalité adéquat dans la gestion des affaires courantes. Plusieurs mandats électifs prendront fin au cours de l'année 2025. Compte tenu des contraintes liées à l'organisation de ces différents scrutins, il y a lieu de réfléchir sur des actions qui s'annoncent ardues si l'on considère les contraintes conjoncturelles auxquelles notre pays est confronté. En considérant par ailleurs les difficultés de trésorerie, il sera par exemple très délicat au plan logistique et financier d'organiser 4 scrutins au cours de la même année. Deuxième élément de réponse, en privilégiant le réalisme dans la gestion des affaires publiques, c'est la toute première fois que le président de la République saisit les institutions compétentes dans le cadre d'une procédure de consultation à l'effet de voir comment réajuster ce calendrier électoral, notamment le mandat des conseillers municipaux et des députés. Une démarche formellement prévue par la réglementation en vigueur, consignée dans l'article 170, alinéa 2 du Code électoral. Comme nous le savons, le mandat des conseillers municipaux prendra fin le 18 février 2025, celui des députés le 10 mars 2025, le septennat du chef de l'État le 6 novembre 2025. Pour les conseillers régionaux, ce sera le 22 décembre 2025. Toutefois, seuls les mandats des conseillers municipaux et des députés peuvent être prorogés ou abrogés selon les dispositions légales en vigueur. Sur tous ces détails, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, sur très haute instruction du président de la République, a réuni son équipe pour discuter de la situation sociopolitique dans la perspective de la tenue prochaine de ces scrutins marqués par la décision du président de la République de proroger certains mandats. Immeuble Étoile, Laurentine Bocono, CRTV.
Les prochaines élections législatives rondes au Cameroun auront-elles lieu en 2026 au lieu de 2025? Tous les regards se tournent vers l'Assemblée nationale où le projet de loi portant prorogation du mandat des députés est en examen. À la Chambre basse du Parlement, des débats sont déjà houleux entre les élus de la majorité favorables à cette prorogation et ceux de l'opposition plutôt réservés. Charles Abosoloba.
Le projet de loi sur la table des députés a franchi le premier palier, l'adoption par la commission des lois constitutionnelles. Pour l'honorable Dissaké, député RDPC, secrétaire de cette commission, la validation du texte à cette étape préliminaire est sans surprise.
La prorogation est d'abord quelque chose de légal, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur la loi, elle a une base légale. Et sur quelle loi? Sur la loi supérieure qu'est la constitution. L'article 15, alinéa 4 de notre constitution prévoit que le président de la République peut abroger ou proroger le mandat des députés.
Prochaine étape, le passage du projet de loi en séance plénière. Alors que la date de cette consultation est toujours attendue à la Chambre basse du Parlement, les élus de l'opposition annoncent les couleurs. Honorable Roland Issimbok, député PCRN.
Je suis surprise franchement par rapport à tous ces arguments qui ont été mis en avant pour pouvoir reporter les élections. Je pense simplement qu'il est question là maintenant de ramener le Cameroun, non pas à la démocratie chèrement acquise, mais plutôt à une sorte de ruse qui amène le parti au pouvoir de mettre de côté certains acteurs politiques.
En face, la réplique des élus de la majorité ne se fait pas attendre. Honorable Dissaké.
Ces élections demandent un déploiement humain, matériel, financier. Donc permettons que, en raison de ces déploiements-là, ces élections soient décalées.
C'est dans cette ambiance, expression de la vitalité démocratique à l'Assemblée nationale, qu'est attendu le vote du projet de loi portant prorogation du mandat des députés.
L'une des raisons évoquées par le texte pour justifier la prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux, c'est la nécessité de désengorger le calendrier électoral de l'année 2025. 4 élections organisées en une seule année nécessitent un déploiement aussi bien humain que matériel et financier important. Réaction de quelques politologues dans ce reportage de Clarisse Njanga.
Organiser une élection, c'est mobiliser de fortes ressources financières, logistiques, humaines. En organiser 4 la même année, c'est éprouvant. Professeur Aboya Manassé Ndong, politologue.
C'est le même organe en charge d'organiser les élections, ELECAM, qui va être sollicité. C'est les mêmes personnalités publiques, de la préfectorale à la magistrature, disséminées sur toute l'étendue du territoire, qui vont être mobilisées. Et puis, c'est les partis politiques qui devraient entrer en campagne dans une mobilité qui ne laissera place à aucune autre activité au Cameroun. Et ça coûte cher, énormément cher.
Une fois actée, la prorogation laissera le temps aux partis politiques de mieux préparer et présenter leur candidature.
S'organiser à exploiter les failles qui pourraient leur permettre soit de présenter des candidatures indépendantes, soit de s'aligner derrière les partis politiques qui, eux, remplissent les conditions susceptibles de leur permettre de présenter une candidature.
Routine et stratégie, c'est ainsi que le professeur Sosten Gaïfouba, politologue, perçoit le fonctionnement des partis politiques sur le point d'être reconfiguré.
Aujourd'hui, les partis qui n'ont pas la capacité de présenter les candidats ou qui ont été exclus ont la possibilité, surtout lors de l'élection présidentielle, de rechercher d'autres voies et moyens comme le nombre de signatures, 300 signatures, et puis il peut être investi par un autre parti politique. Il y a une existence légale. La loi est connue. Il faut quand même avoir une approche quoi, pédagogique et citoyenne qui vise quand même à sensibiliser les citoyens à aller aux élections en tenant compte de nous, notre souveraineté, nos besoins de sécurité, de stabilité politique et économique.
Le texte est sur la table des députés.
La prorogation envisagée du mandat des députés dont le texte est en examen à l'Assemblée nationale cadre avec la constitution du pays et obéit à la volonté pour le pouvoir d'éviter d'alourdir le calendrier électoral en 2025. Constance.
En 2025, 4 scrutins sont prévus au Cameroun, les législatives, les municipales, les régionales et la présidentielle. 4 scrutins, c'est un coût financier important que doit supporter le trésor public. Un vrai défi pour le pouvoir qui doit gérer dans le même temps plusieurs fronts, notamment sécuritaires, dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Quatre élections, c'est également un défi en termes de personnes et de matériel électoral à mobiliser. Pour Elections Cameroun, la probabilité d'avoir plusieurs dysfonctionnements est très élevée. Face à cette réalité, il est logique de décaler ces différents scrutins pour permettre à ELECAM de les organiser de manière plus sereine pour plus de transparence. Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale pour la prorogation du mandat des députés jusqu'au 30 mars 2026, soit 18 mois, obéit donc à un besoin de ne pas alourdir le calendrier électoral en 2025 au Cameroun. Plus important, le texte que va examiner la Commission des lois constitutionnelles de la Chambre basse du Parlement est conforme à l'article 15, alinéa 4 de la Constitution de 1996 qui précise que lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger son mandat. Les circonstances actuelles que connaît le pays donnent raison au dépôt de ce projet de loi devant l'Assemblée nationale samedi.
Les travaux de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Montréal au Canada en sont à leur troisième jour avec l'entrée en scène des commissions permanentes. Toute une journée pour débattre dans le même temps et dans des espaces divergents des questions parlementaires, politiques, économiques, sociales et environnementales, mais aussi d'éducation, de culture et de communication. Les précisions avec notre reporter Clarisse Tan, envoyée spéciale de la CRTV à Montréal.
L'Assemblée parlementaire de la francophonie mène un important travail de réflexion portant sur des sujets tels que les libertés et droits politiques, les parlements et la communication, l'espace économique francophone et la coopération décentralisée ou encore l'éducation, les obstacles à la diffusion des connaissances dans les espaces francophones ou la place du français dans les organisations internationales. Les commissions permanentes sont ainsi au nombre de 4 et sont compétentes dans divers domaines.
Nous avons discuté d'un certain nombre de thèmes. Je prendrai l'exemple de la discussion sur le retour des biens culturels spoliés.
Nous avons abordé la question de la désinformation en milieu parlementaire. Nous avons travaillé sur les stratégies de coopération interparlementaire et puis nous nous sommes penchés sur les bonnes pratiques.
Sur le plan économique, nous avons fait une emphase sur la politique d'import-substitution au Cameroun qui vise à accroître la production locale de céréales et limiter les importations.
Les travaux de l'APF se poursuivront avec une séance plénière au cours de laquelle les parlementaires de la francophonie débattront sur l'impact de l'intelligence artificielle ainsi que sur quelques points supplémentaires inscrits à l'ordre du jour de ces travaux.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 12 minutes. 1 milliard 172 millions de francs CFA pour accroître la production nationale de riz, réduire substantiellement les importations de cette céréale, ainsi que le déficit de la balance commerciale. C'est le fruit de la coopération Cameroun-Banque islamique de développement. Les protocoles d'accord ont été signés ce jour entre le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et l'acteur de la mise en œuvre de la politique agricole au Cameroun, l'IRAD, l'Institut de recherche agricole pour le développement. Marie-Monique Mbozo.
Les protocoles d'accord signés ce jour concernent le projet de développement des chaînes de valeur de la filière riz. Grâce à l'appui financier de la Banque islamique de développement, une enveloppe d'un montant d'1 milliard 172 millions de francs CFA est mise à la disposition de l'IRAD afin d'offrir aux producteurs des semences de bonne qualité et des formations sur les bonnes pratiques agricoles pour la production du riz. Les régions concernées sont l'extrême nord, le nord-ouest et l'ouest. Selon les termes de ces accords, l'IRAD devra sur une durée de 3 ans fournit 9 tonnes de variétés adaptées de semences de base de riz, des technologies complémentaires et la mise en place des champs-écoles paysans dans les sites d'exécution du projet. L'Institut s'attellera à former 12 coopératives et des entreprises privées sur la production de semences certifiées de riz, les méthodes et techniques adaptées aux technologies de production de riz. 150 formateurs de formateurs seront encadrés. L'IRAD assurera également la fourniture des bulletins sur les meilleures techniques techniques agricoles, post-récolte et transformation de riz. Et pour le ministre Gabriel Mbayrobé, la mise en œuvre de toutes ces actions permettra d'amorcer des réponses concrètes à l'épineuse question de réduction des importations de riz qui pèse 536 milliards de francs CFA sur la balance commerciale et de combler ainsi le déficit annuel évalué à 450 000 tonnes de riz au Cameroun.
Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, informe l'opinion publique et la communauté universitaire qu'il présidera la conférence des chefs d'établissement, en abrégé CCE, le jeudi 11 juillet, dès 9h à l'amphi 200 de l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université de Yaoundé 1, instituée par le décret du 19 janvier 1993, portant dispositions communes aux universités. La CCE a pour mission d'examiner l'ensemble des problèmes liés au développement des établissements sur le plan structurel, académique et technique dans le cadre de la politique de planification de l'enseignement supérieur et de la coopération inter-établissement universitaire. Sont invités à cette cérémonie le président de la conférence des chefs des institutions universitaires, tous les doyens des facultés, tous les directeurs des grandes écoles, les établissements à statut particulier placés sous tutelle du MINESUP, les experts ainsi que des hauts fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur. C'est signé le professeur Jacques Famindongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Le président de la Commission nationale anticorruption, le révérend docteur Dieudonné Massigams, porte à la connaissance de l'opinion nationale que la 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption se célèbre le 11 juillet 2024 avec pour thème « Mécanismes efficaces de protection des lanceurs d'alerte, outils essentiels de lutte contre la corruption ». À cette occasion, la CONAC organise du 9 au 11 juillet à Berthois, une série d'activités relatives à la prévention et à la répression des actes de corruption, dont un atelier de formation sur les thématiques afférentes à la corruption dans les marchés publics, à la protection des lanceurs d'alerte, au leadership pour un changement de comportement, ainsi qu'une marche de sensibilisation à la lutte contre la corruption dans les artères de la ville de Berthois le 11 juillet 2024. Campagne d'assainissement du secteur du transport par mototaxi dans le département du Voiry. La mairie de la ville de Douala, en collaboration avec le projet Moto Afrique et les syndicats, procède à l'enrôlement dans la plateforme numérique de la ville de Douala et de leur formation à la citoyenneté et à la conduite automobile. Ce vaste chantier qui démarre le 11 juillet a pour objectif d'impacter positivement sur la sécurité des hommes et de leurs biens. Le président du projet Moto Afrique, Samuel Franck Vondon-Vondon, a tenu une conférence de presse ce jour à Douala pour donner les contours de cette campagne. José Gaëtan Tsanga, CRTV Littoral.
Cette campagne d'identification lancée par le maire de la ville et implémentée par le projet Moto Afrique vise à créer une plateforme numérique pour identifier les vrais transporteurs par moto-taxi.
Cette importante campagne d'identification et d'enrôlement des mototaxis dans cette plateforme numérique va permettre à ce que les mototaximans identifiés investissant dans la ville de Douala aboient les chargures d'identification. La sécurité des populations, des hommes et des biens sera garantie.
Des centres d'enrôlement sont ouverts dans les différentes communes. L'enregistrement se fait sur la base de présentation de certains documents.
Les mototaxis ayant obtenu un permis de conduire, ayant une carte grise, une police d'assurance, vont entrer dans la plateforme numérique de la ville de Douala. Nous allons activer tous ceux qui veulent avoir les permis de conduire dans la ville de Douala pour faciliter et favoriser leur formation.
La campagne débute le 11 juillet prochain. Douala, José Gaëtan Tsanga, CRTV.
Suite de notre série Vacances, parlons ce 13h du choix des occupations des enfants pour leurs parents qui varient en fonction des intérêts qu'ils accordent à leur activité. Entre tâches ménagères, activités de loisirs, renforcement de l'apprentissage des langues maternelles, chaque parent trouve le juste milieu pour occuper les enfants pendant la période des vacances. Leurs avis dans ce reportage de Fatime Bintou Akoum.
Les vacances dans la famille Sylvie Tchana se préparent avant la période à proprement parler. Chaque mois de trêve correspond à une activité précise.
Je me prépare déjà avant, sachant que les enfants vont s'ennuyer à la maison. De un, je les apprends la cuisine, comment on fait frire les œufs, comment on nettoie le poisson, comment on en... C'est un Les plus grandes font le sport, les moyens partent à la piscine.
Chez Béatrice Diabou, enseignante, les vacanciers pour elle s'attellent à l'apprentissage des gestes de premier secours.
Déjà, ils sont en pleine formation de sapeur-pompier. Je les réveille à 5h45. La plus grande, elle balaye la cour, le petit s'occupe du salon. Quand ils ont fini, ils s'apprêtent rapidement, ils vont à leur formation.
Pour d'autres encore, le moment est propice à l'apprentissage des langues maternelles. C'est le cas de Lydie, parent d'enfant, qui consacre aussi cette période au maintien des liens de parenté.
Les tout petits, je les envoie au village afin qu'ils puissent apprendre la langue maternelle et ça leur permet également de connaître leurs cousins et aussi de découvrir même leur village.
Les vacances, pour plusieurs parents, est la période idéale pour leur progéniture d'allier activités d'apprentissage et loisirs.
Modernisation de l'administration publique, bientôt l'opérationnalisation de l'Aigle, la nouvelle application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a lancé un appel à concurrence à l'intention des jeunes Camerounais pour la réalisation d'un logo et d'une charte graphique de ce prologiciel. Les termes de référence et les conditions de participation sont disponibles sur le site web du Minfopra. La date limite est fixé au 10 juillet 2024 et la proclamation des résultats le 15 juillet 2024. Le ministre Joseph Lé appelle les jeunes à saisir cette opportunité qui permet de créer une identité visuelle forte, positionnant Aigle comme une marque reconnue et professionnelle et qui facilitera l'acceptation de l'application par les utilisateurs. Autre appel à candidature en cours, celui du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers l'Observatoire national de la jeunesse en partenariat avec un centre de formation privée pour la sélection de 200 jeunes Camerounais détenteurs de la carte jeune biométrique et autres chercheurs d'emploi. C'est pour une offre à coût réduit de 70% de formation confiante dans les technologies développées par un géant mondial du numérique, notamment le cloud computing et l'intelligence artificielle, la science des données et bien d'autres. La sélection, qui est une opportunité d'emploi directe, est ouverte aux jeunes de 17 à 35 ans. À l'étranger, législative en France, le président Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester Premier ministre. La décision fait suite à la déclaration de l'actuel Premier ministre de démissionner après la perte de la majorité des sièges lors du vote qui a vu la percée du nouveau Front populaire en tête avec 182 sièges. Le camp présidentiel Ensemble enregistre 163 députés, tandis que le Rassemblement national et ses alliés en obtiennent 143. Gilles Claude Bonitoundi.
L'annonce a été faite ce lundi par l'Élysée. Gabriel Attal garde le poste de Premier ministre. Le président Emmanuel Macron souhaite qu'il assure la stabilité du pays. Une décision attendue selon le professeur Éric Gatti-Tazo, directeur du département politique au think tank CEDES.
Le Premier ministre est généralement issu du parti politique qui a gagné les élections législatives. La difficulté ici, dans le cas d'espèce, c'est que aucun parti politique, voire aucune coalition politique n'a réussi à avoir la majorité absolue. Ce sera donc au parti politique ou à la coalition politique qui va réussir à constituer avec les autres une majorité absolue qui va lui donner la possibilité de gouverner.
Les résultats du second tour des législatives ont déjoué tous les pronostics. Le nouveau Front populaire est le grand gagnant avec 182 sièges à l'Assemblée nationale, suivi du camp présidentiel Ensemble et ses 163 députés. Le Rassemblement national obtient quant à lui 143 sièges.
Les Français ne sont visiblement pas encore prêts à lui confier, n'est-ce pas, la gestion du pays et voir ce parti-là être considéré comme étant le parti dominant.
Et malgré ce score surprenant, la gauche n'obtient pas néanmoins la majorité absolue pour appliquer son programme. En France, la question de la nomination du futur Premier ministre dans les prochaines semaines cristallise tous les débats.
En sport, la 5e édition du championnat d'Afrique de Namboudo s'est achevée hier au palais polyvalent des sports de Yaoundé avec le sacre du Cameroun. Les Lions indomptables du Namboudo ont récolté 20 médailles en or et 2 en argent, suivi du Sénégal, 2 médailles en or. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelé-Kombi, représentant personnel du chef de l'État. Bilan de la compétition, Didier Marius et Toundi.
L'objectif est largement atteint par la team. Engagée dans 22 catégories, les Lions indomptables du Namboudo s'imposent sur 20 en décrochant 20 médailles d'or et 2 en argent. Célestin Tamle Simo, entraîneur national.
Nous sommes satisfaits, nous sommes contents des athlètes, nous sommes contents de l'exécutif de la Fédération camerounaise de Namboudo. Nous sommes contents du ministère des Sports, nous sommes contents du président de la République qui n'a lésiné sur aucun moyen pour nous amener à ce résultat.
12 pays ont pris part à cette compétition. Le niveau au fil des éditions évolue. Célestin Tamle Simo.
Même si nous avons gagné pratiquement toutes les médailles d'or mises en jeu, il faut avouer que le niveau technique a suffisamment évoluer. Vous avez Centrafrique qui est désormais un sérieux adversaire avec une façon de gérer le combat bien plus mature qu'avant.
La Confédération africaine de Namboudo se félicite de toutes les diligences prises par le Cameroun. Maître Kwasi Kominan, président.
Chers maîtres, chers athlètes, vous avez bien travaillé, nous sommes à l'heure des récompenses. Et voilà que pour la 5e fois, le lion est resté indomptable. Félicitations au Cameroun.
La 6e édition va se dérouler en 2027 au Maroc. En 2026, l'Afrique va accueillir la Coupe du Monde de Namboudo.
À handball, le championnat national d'élite, la 4e journée s'est disputée le week-end. Grâce à sa 4e victoire de rang, la fondation André Nzico chez les messieurs est en tête dans la poule A. Le choc au sommet de la poule B qui opposait Friendship au FAP a tourné en faveur des forces armées police chez les dames. Tigresse de Bachenga a remporté son premier match de la saison. Le point complet, Jean Armstrong joue.
Tigresse de Bachenga, 33. Soleil Levant de Bertois, 31. Le bal des mal classés de la poule B en dame a tourné en défaveur de la formation de la région de l'Est. Le fauteuil de leader de cette poule est solidement occupé par FAP qui a balayé tour à tour Soleil Levant, 60 à 20 et France, 30 à 17. Dans la poule A, le TKC de Yaoundé, vainqueur de Dynamique par 27 contre 15, s'empare de la première place au détriment du Yo. Chez les messieurs, le duel au sommet Friendship leader au FAP second a été dominé par les forces armées et police sur le score serré de 32 à 30. Renaissance de Douala a enregistré une victoire face à l'Université de Boya, 31 à 16. Dans la poule A, France, après avoir gagné 30 à 22 face à Spartiates, est venue à bout de Soleil Levant, 31 contre 29. Une défaite in extremis des gardes de l'Est qui mérite une explication. Coach Mam Etienne Yannick.
On a encore pêché comme d'habitude sur l'enfantillage parce que nous sommes en train de jouer avec des jeunes qui sortent directement du centre de formation. Et devant des grandes têtes comme nous avons en face, c'est normal qu'à un moment donné, ça soit difficile.
Toujours dans cette poule, Veto de Boya n'a fait aucun cadeau à Soleil Levant, battu 33 à 17.
Le ministre des Finances rappelle à tous les contribuables du secteur public et privé qu'en application des dispositions du 19 décembre de la loi du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024, les attestations de retenue à la source des impôts et taxes et les attestations de paiement du droit de timbre automobile sont délivrées exclusivement en ligne à partir du système informatique de l'administration fiscale. Pour assurer le plein succès de la mise en œuvre de cette réforme, dont la phase de généralisation est intervenue depuis le 18 mars 2024, des formations ont été progressivement dispensées aux assujettis et les différents guides d'utilisateurs régulièrement publiés par l'administration fiscale. Au regard du niveau de dissémination de la réforme, le ministre des Finances rappelle à tous les contribuables opérant des retenues à la source que le dernier délai fixé pour qu'ils procèdent aux déclarations des retenues à la source à travers le module Biling est fixé au 10 juillet 2024. Passé ce délai, aucune retenue à la source ne pourra plus faire l'objet de déclarations annuelles dans la plateforme consacrée aux déclarations mensuelles Harmony. De même, les contribuables ayant subi la retenue ne pourront plus imputer manuellement les dites retenues à l'occasion de leur déclaration mensuelle. Le ministre des Finances informe enfin les contribuables qu'un dispositif d'assistance consistant en un helpdesk accessible via le portail web de la Direction générale des impôts à l'adresse www.impots.cm et un dispositif d'assistance dans leur centre des impôts de rattachement sont mis à leur disposition pour leur faciliter l'accomplissement de cette obligation légale. Le ministre des Finances compte sur le civisme habituel et la collaboration de tous. Vous écoutez le 13h, voici à présent le condensé des nouvelles du jour en anglais, Mankaa Ambi.
Good afternoon. The socio-political situation of Cameroon concerning the organization of the 2025 elections, as well as the mandate of elective officials in the country, have come under discussions in Yaoundé. This was during an emergency cabinet meeting chaired today by the Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Guitté. The members of government also deliberated on an eventual response on the extension of the mandate of municipal councillors and parliamentarians. The four general committees of the Parliamentary Assembly of La Francophonie, APF, have been examining the political, economic, education and social aspects that thwart the development of French-speaking countries. The close to 400 delegates attending the APF deliberated on the causes of political instability, dwindling economies and the loss of values. The production of 9 tons of pre-basic seeds of adapted rice varieties will be boosted following 2 memoranda of understanding signed in Yaoundé today between the Rice Value Chain Development Project and the Institute of Agricultural Research for Development, IRAD. The documents were signed in the presence of the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobi, who in his opening remarks saluted the support from the international community aimed at promoting the emergence of the seed subsector in Cameroon. Out of Cameroon, French Prime Minister Gabriel Attal has resigned, but President Emmanuel Macron has asked the PM to stay in the role for the moment so as to ensure stability after the election. This comes after yesterday's second round parliamentary elections that dealt a blow to the far-right national rally, but leaves no party with the majority, keeping the country in a deadlock. The national rally of Marine Le Pen has been pushed to the third place behind a hastily assembled left-wing alliance. And in sports, the Nambudo team of Cameroon has been crowned 5-time African Nambudo champions. The team won the African Nambudo Championship, which took place over the weekend at the multipurpose sports complex in Yaoundé, winning a total of 22 medals, 2 include 20 gold and 2 silver. The Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Muilekombe, presided over the closing ceremony. We're going to develop these stories and more for you at 3 p.m.
À retenir de cette édition qui s'achève, Assemblée nationale, le projet de loi portant prorogation des mandats des députés et conseillers municipaux est examiné depuis cette mi-journée. Le conseil de cabinet extraordinaire ce matin, l'immeuble étoile, était axé sur le climat sociopolitique dans la perspective des prochaines échéances électorales à l'immeuble étoile. Sur très haute instruction du président de la République, le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Guitté, a réuni son équipe dans la perspective d'une bonne organisation des 10 scrutins. 13h32 à Yaoundé, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un excellent après-midi.